La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour et bienvenue dans l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans cette émission, nous aimons bien aborder des questions de santé et de science. Nous ne sommes pas médecins, mais nous partageons notre culture générale du vivant. Cette semaine, avec Fab, nous vous proposons de parler du tissu conjonctif. C'est un drôle de sujet. Pourtant, savez-vous ce qu'il se cache derrière ce terme, utilisé un peu à toutes les sauces? Allez, un peu de curiosité et apprenons ensemble.
Malika Cécile, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est le tissu conjonctif?
Avant de définir le tissu conjonctif, j'aimerais revenir à ce que l'on appelle tissu en biologie. Un tissu, c'est un ensemble, c'est en quelque sorte le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. C'est un ensemble de cellules qui sont semblables, de même origine, et regroupées en amas ou en réseaux ou en fibres. Un tissu forme un ensemble fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces cellules vont concourir à une même fonction. Les tissus biologiques se régénèrent régulièrement et sont assemblés entre eux pour former des organes. Donc vous voyez que tissu, c'est quand même un terme assez large. Et il existe quatre types de tissus dans le règne animal. Il y a ce qu'on appelle le tissu épithélial, qui est en quelque sorte un revêtement des surfaces de l'organisme. Il y a ce qu'on appelle les tissus musculaires, donc formés de cellules qui peuvent se contracter, des cellules contractiles, et ce qui va permettre le mouvement. Il y a le tissu nerveux, formé de cellules polarisées, organisées en réseau. Et enfin, le tissu conjonctif, qui est le plus répandu dans l'organisme, et c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Les tissus conjonctifs sont donc des tissus biologiques qui assurent la cohésion des autres tissus de l'organisme. C'est un support structural et métabolique. Ils peuvent être de forme et d'aspect très variables, mais présentent des caractères communs. Ce sont des cellules non jointives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne se touchent pas. Et il y a de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire une substance fondamentale, avec des fibres qui entourent ces cellules non jointives. La substance fondamentale, elle est composée d'eau, de sels minéraux, de protéines, de molécules complexes type glycoaminoglycanes, et elle va jouer un rôle de lubrifiant du tissu conjonctif. Elle va permettre d'absorber des chocs et faciliter la diffusion de nombreux éléments à travers les tissus. Donc cette substance fondamentale, elle est importante. Sa consistance va varier de liquide à semi-gélatineuse. Elle occupe les espaces entre les fibres et les cellules. Pour avoir une image un petit peu plus claire à l'esprit, imaginez donc cette matrice composée essentiellement d'eau, mais avec une sorte de charpente de soutien, et dispersée à l'intérieur, il va y avoir des petites cellules et des fibres. Vous avez sûrement déjà entendu parler de certaines de ces fibres d'ailleurs, ces fibres de structure. Il y a le collagène, l'élastine et la réticuline. Formé d'une triple hélice, le collagène a un rôle de liaison et de maintien, donc il permet de piéger des molécules qui retiennent l'eau, mais il n'a pas des propriétés élastiques comme l'élastine. Le collagène, on va le retrouver principalement au niveau des os, des tendons, des ligaments, des dents, de la paroi des vaisseaux sanguins. L'élastine, elle, va avoir une bonne capacité à s'étirer, à se rétracter pour reprendre sa forme. Et son rôle est donc particulièrement important dans des fonctions de souplesse, souplesse de la peau, souplesse des artères, souplesse des alvéoles pulmonaires. Entre les fibres de il y a les fibres de réticuline qui sont très très proches de celles du collagène. mais néanmoins plus fines et nombreuses dans certaines localisations du corps, comme le foie, les reins, les glandes endocrines et les organes du système lymphatique comme la rate. Donc en résumé, la structure commune aux différents tissus conjonctifs est la substance fondamentale, des fibres et des cellules non jointives.
Peux-tu nous préciser à quoi sert le tissu conjonctif ?
Alors vous pouvez l'imaginer, selon le type de tissu conjonctif, il va y avoir différentes fonctions. Mais globalement, il va y avoir une fonction mécanique, de soutien et de cohésion des autres tissus biologiques ou organes. Par exemple, ça va assurer la forme et la tenue des os ou du cartilage. Le tissu conjonctif a également un rôle de nutrition, de nettoyage des autres tissus biologiques. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu dans lequel vont diffuser les nutriments et les déchets entre le sang et les cellules. On peut aussi penser à son rôle de stockage d'énergie, parce qu'il y a le tissu adipeux, graisseux, donc qui est une réserve énergétique pour nous. Et enfin, il y a un rôle dans le fonctionnement de l'immunité, puisque beaucoup de cellules immunitaires vont transiter en circulant via le tissu conjonctif. Vous l'aurez compris, le tissu conjonctif a un rôle capital, il va soutenir la distribution dans l'espace des vaisseaux nerveux, protéger les fibres nerveuses, participer à la nutrition des neurones. Il va relier également tous les muscles entre eux, sans discontinuité à travers tout le corps. Il est nécessaire à la qualité de l'agencement dans l'espace, ainsi qu'à la performance et à la capacité de récupération après un effort. Donc vous voyez pourquoi aujourd'hui je voulais parler de ce fameux tissu conjonctif, parce qu'il est vraiment essentiel.
Et qu'est-ce qui peut endommager le tissu conjonctif ?
Eh oui, comme toutes les structures vivantes, les tissus conjonctifs vont être soumis à des événements, des stress, qui vont les mettre parfois à rude épreuve. Ces tissus conjonctifs seront donc plus ou moins capables de se maintenir en bon état dans le temps. Donc le premier facteur qui peut sembler un peu inévitable, ça va être le vieillissement. Parce qu'avec l'âge, le tissu conjonctif, par exemple, de la peau va avoir tendance à être de moins en moins épais. En plus, la synthèse des fibres de structure va diminuer avec l'âge, notamment l'élastine. Et ce qui fait que le remplacement partiel de celle-ci par du collagène va réduire l'élasticité de la peau. À cela, on peut ajouter souvent une difficulté croissante du corps à rester bien hydraté. Quand on prend de l'âge, donc on voit que tout ça a tendance à endommager le tissu conjonctif. Un autre facteur à considérer va être le stress oxydatif. Dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on met ? On met la surexposition aux rayons solaires, les excès d'alcool, le tabac. Et alors, quelques précisions sur le tabagisme. Globalement, on sait tout ça, mais le fait de fumer, ça va augmenter dans le corps, la quantité de radicaux libres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le stress oxydatif va augmenter. Et donc, peut-être que vous le savez, mais à chaque fois que quelqu'un fume une cigarette, son corps va consommer l'équivalent de 25 mg de vitamine C pour compenser les dommages causés. Donc, pour imaginer ça, quelqu'un qui va fumer, par exemple, 4 cigarettes dans une journée, il va avoir besoin de 2 portions de brocoli ou d'un pomelo entier ou de 2 oranges, juste pour compenser la perte en vitamine C liée au tabac. Or, la vitamine C, elle a beaucoup de rôles dans le corps, mais notamment, elle va protéger le tissu conjonctif, puisqu'elle permet la synthèse du collagène et de l'élastine. Et comme le corps ne peut ni stocker ni conserver la vitamine C, c'est quelque chose qui doit être consommé quotidiennement par le corps. Et c'est pourquoi le tabagisme est l'une des habitudes les plus délétères pour le maintien d'un tissu conjonctif en bon état, que ce soit au niveau de la peau, qui est visible, mais également au niveau des vaisseaux sanguins. Un autre facteur, ça va être l'acidose tissulaire. Et ça aussi, on en entend souvent parler de l'équilibre acido-basique. Donc il faut savoir qu'indépendamment du degré d'acidité que l'échelle du pH permet de mesurer, les acides peuvent avoir pour caractéristique d'être forts ou faibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne se présente que très rarement à l'état libre ou isolé, mais le plus souvent, ces acides sont liés à des bases. Lorsque la base avec laquelle l'acide se retrouve attachée, eh bien, c'est une base forte, chimiquement forte. Eh bien, on va dire que l'acide va compter peu dans la liaison et donc lui va être dit faible. Et inversement, lorsque la base est faible, on va dire que l'acide est fort. Les acides forts vont provenir principalement des protéines animales. Il s'agit notamment des acides uriques, sulfuriques, phosphoriques. Leur évacuation va nécessiter un travail important de neutralisation de la part du foie et des reins. Ces derniers ne peuvent éliminer qu'une certaine quantité chaque jour. On ne peut pas leur en demander plus. Donc l'excédent de ces acides va s'accumuler nécessairement dans les tissus. Donc la consommation de protéines animales devrait être modérée et adaptée pour éviter cette acidose tissulaire. Les acides faibles sont principalement d'origine végétale. On va penser aux hydrates de carbone, aux protéines végétales. Excepté ceux qui vont venir des yogourts, puisque eux seront d'origine animale. Et bien, ces acides faibles vont être comme l'acide citrique, oxalique, pyruvique, etc. Et eux sont plutôt volatiles une fois qu'ils sont oxydés, donc ils vont être éliminés par les poumons. Mais bon, revenons à nos moutons. Les acides forts, donc non volatiles, vont suivre un cycle sur 24 heures. Le jour, ces acides sont partiellement neutralisés et stockés dans le liquide interstitiel. Vous savez, ce petit liquide de remplissage dans lequel baignent toutes vos petites cellules et qui entoure vos organes dans le corps. Eh bien, celui-ci fait partie de la substance fondamentale. Vous y êtes ? Donc, durant la nuit, ces acides lourds retournent dans le sang afin d'être plus fortement neutralisés et éliminés par les reins. C'est ce qui explique que votre première urine du matin est normalement plus acide que les autres et très foncée. Cependant, cette capacité a une limite. S'il y a trop d'acides lourds qui se sont accumulés dans la journée dans le liquide interstitiel, eh ben, celui-ci va perdre de sa fluidité et avoir tendance à être de plus en plus gélatineux. Par ailleurs, en s'acidifiant, il va aussi modifier la polarité électrique. Donc, pourquoi ? Parce que les acides ont une valeur, ont cette capacité à voler des électrons, ce sont des voleurs. Donc vous voyez où je veux en venir. On se retrouve avec des tissus conjonctifs dont la substance fondamentale est épaissie, gélatineuse, et ça va pénaliser de façon mécanique la diffusion de tous les nutriments jusqu'aux cellules, mais également l'élimination des déchets. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus difficile pour les cellules, de réaliser leurs échanges. Qu'est-ce qui peut endommager le tissu conjonctif ? Les carences nutritionnelles, on l'a vu par exemple avec la vitamine C. On pensera, mais c'est souvent le cas, à la sédentarité. Parce que qui dit sédentarité dit faible mouvement de la lymphe. Or, la lymphe, c'est un peu aussi le collecteur des déchets. Et comme je dis souvent, il vaut mieux sortir ses poubelles un peu tous les jours qu'une fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien distinguer la sédentarité du fait de pratiquer un sport. L'important, c'est que l'organisme soit en mouvement de façon très régulière plusieurs fois par jour et pas une fois par semaine, je vais faire un petit peu de sport. Parce que si vous pratiquez un sport du coup une ou deux fois par semaine, vous allez travailler après le reste du temps dans votre bureau ou assis pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures, et bien, ça ne va pas permettre à votre corps de s'entretenir correctement. Bref, c'est uniquement par une activité physique régulière plutôt que intense et ponctuelle que vous allez avoir des bénéfices physiologiques. Plus doux, plus régulier, meilleur pour votre corps. En résumé, dans ce qui peut porter préjudice au tissu conjonctif, il y a le vieillissement, la sédentarité, le stress oxydatif, les carences nutritionnelles et l'acidose tissulaire. Ça fait beaucoup de choses, donc on va se retrouver après une petite pause musicale pour la suite de l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. Et aujourd'hui, nous écoutons C'est la Sioux avec Ragamuffin. Yeah. Oh. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. Giving me no choice, no, no, no.
come up when there's a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. The dear ragamuffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. A dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Chase, you never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have, so this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. One of the friend, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground?
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Radio Escapade pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui avec Fab, nous parlons du tissu conjonctif, son utilité, ce qui l'endommage et comment en prendre soin.
Justement, Malika Cécile, comment prendre soin de son tissu conjonctif ?
Vous l'avez compris, il existe une grande variété de tissus conjonctifs dans différentes parties du corps, ayant des fonctions variées. Donc pour répondre à cette question précisément, il faudrait passer en revue l'ensemble des tissus conjonctifs et de cibler leurs besoins spécifiques. Néanmoins, certains nutriments sont des fondamentaux si l'on envisage une synthèse de qualité. Tout d'abord, étant donné l'importance des protéines structurales dans la qualité des tissus conjonctifs, il convient que l'organisme dispose suffisamment d'acides aminés, donc les petites briques qui forment les protéines. Les plus concernés par la fabrication du collagène, de l'élastine, sont la proline, la glycine et la lysine. Pour rappel, ces protéines font partie des protéines essentielles. Les légumineuses sont une bonne source de lysine. La proline est fournie notamment par les choux, les épinards et les champignons. La glycine est principalement présente, elle, dans la viande, mais aussi dans le riz et les noix. Donc pour faire simple, consommer une portion de protéines variées à chaque repas permet de couvrir ses besoins quotidiens, toutes fonctions confondues. Des œufs, des bananes, de l'avocat, chia, spiruline, poisson ou viande pour ceux qui aiment, galettes d'avoine, champignons frais, pâtés végétaux, tofu lacto-fermenté. Il y a vraiment de quoi varier les plaisirs. Mais c'est très important de consommer des protéines à chaque repas, justement pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Certaines vitamines sont également indispensables à un tissu conjonctif de qualité. On va penser à la vitamine C, qui est consommée en quantité pour fabriquer ces fameuses fibres, collagène, etc. Et on a aussi les vitamines A et les vitamines E. D'ailleurs, il est intéressant de constater que toutes les trois ont des propriétés antioxydantes, comme on en a parlé précédemment. Côté oligo-éléments, on pensera au silicium, au soufre et au zinc, qui sont des incontournables pour un collagène de bonne qualité. Du côté de l'élastine, c'est aussi les sources de silicium qui seront à l'honneur, car l'organisme en utilise beaucoup pour sa fabrication. Une donnée souvent négligée, la qualité de l'hydratation du corps. Car, elle, là encore, si notre organisme manque d'eau, il sera pénalisé dans sa capacité à fabriquer des protéines structurales de qualité. Le silicium, on le trouve par exemple dans les orties, les amandes et les noix. Le soufre est bien représenté dans la famille des choux, avec cette odeur caractéristique. Le zinc, vous pourrez en trouver dans les graines de courge, dans les noix de cajou et les huîtres. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission du stress oxydatif, donc qui pouvait endommager le tissu conjonctif. Mais attention aux idées reçues. Il a été prouvé que la confrontation de l'organisme à un stress oxydatif raisonnable permet de maintenir sa capacité d'adaptation et de lutte contre les radicaux libres. Tandis que la prise massive d'antioxydants, donc peut-être par des compléments alimentaires, ça va avoir des effets délétères sur le fonctionnement de nos systèmes de défense naturels contre cette oxydation. Donc il vaut mieux des petites doses apportées par l'alimentation, une alimentation adaptée et nutritive, plutôt que de se supplémenter en antioxydants et d'envoyer des quantités énormes, parce que finalement, eh ben, ça va porter préjudice à nos propres systèmes de défense.
Concrètement, Malika Cécile, ça donne quoi dans mon assiette ?
Je peux vous donner quelques idées de plats équilibrés qui vont permettre d'apporter donc un peu ce dont on vient de parler pour avoir des tissus conjonctifs qui fonctionnent correctement. Si on regarde au petit déjeuner, le miam aux fruits est intéressant parce qu'il va apporter du bon gras, des vitamines et des protéines. Pour ça, vous pouvez écraser une purée avec de l'huile de colza. Vous faites une émulsion et puis vous pouvez ajouter des noix variées avec des fruits frais. Pourquoi pas des graines de chia ou des flocons d'avoine. Au déjeuner, vous pouvez avoir, donc il faut penser à des choses très nutritives, très colorées. Donc ça peut être de la roquette avec de l'avocat, des graines de courge, un peu d'huile de colza. Pourquoi pas, pensons un petit peu à la Bretagne avec des galettes de sarrasin, un œuf et une fondue de poireaux. Là, vous allez avoir un repas qui est très équilibré, qui est nutritif et qui répond à vos besoins. Et je voudrais préciser que les œufs, c'est vraiment un très 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 bon aliment. Parce qu'à poids égal ingéré, il permet au corps d'assimiler davantage de protéines que n'importe quelle viande. Il contient également des composés comme du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique, en particulier dans la petite membrane qui est située juste sous la coquille lorsque vous la cassez, cette petite membrane transparente. Et l'œuf est également très riche en soufre et en zinc, et il contient des vitamines A et E. Donc vous voyez, dans les œufs, il y a à peu près tout ce dont on a parlé pour prendre soin de son collagène, de son tissu conjonctif. Et au dîner, il y a des personnes qui aiment bien faire des soupes d'ortie, donc c'est très riche en minéraux, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi intégrer des radis qui vont être riches en soufre, et pourquoi pas un gratin de blettes, où là vous aurez plein d'antioxydants. Le bouillon d'os, qui est un peu le témoin d'une époque où on avait beaucoup moins de viande à profusion, ça faisait un petit peu partie des repas traditionnels. Et du temps de nos grands-parents, on mangeait moins de viande, mais lorsque l'on abattait une bête, on avait conscience de sa valeur et tout était utilisé, consommé jusqu'aux os. Les os à moelle de bœuf, les carcasses de volaille et autres servaient à faire un bouillon qui était destiné à être consommé comme une soupe ou à servir d'ingrédient dans les plats des jours suivants. Et le fait de laisser mijoter pendant plusieurs heures ces carcasses, ça permettait d'obtenir un bouillon très riche en collagène, en acide hyaluronique, en proline et en glycine. Donc là aussi, des choses qui sont très favorables à un maintien de tissu en bonne santé. Il faut savoir que sur le long terme, la présence de protéines lourdes, donc animales, et de zinc dans l'alimentation est quand même nécessaire au maintien d'une bonne sécrétion d'acide chlorhydrique par l'estomac. L'acide chlorhydrique dans l'estomac est indispensable à une digestion et à une assimilation correcte des protéines. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ces données sont des données factuelles qui font pencher vers une prudence vis-à-vis des régimes végétaliens mal conduits. Parce que du coup, même s'il y a des protéines d'origine végétale, l'estomac va moins fabriquer d'acide sur du long terme et du coup, il y aura peut-être plus de difficultés à les assimiler. Ça, on ne le retrouve pas avec un régime végétarien bien géré, puisqu'il y a la présence de certaines protéines animales, notamment avec les œufs ou certains qui consomment du fromage aussi. Il n'y a pas la même problématique sur du long terme. Dernière précision, il est important de bien s'hydrater tout au long de la journée pour favoriser un tissu conjonctif de qualité. Voilà, j'espère que votre vision de ce fameux tissu conjonctif est plus claire maintenant et que vous avez toutes les clés en main pour prendre soin de vous. C'était Malika, Cécile et Fab pour l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. Yeah, 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 yeah. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.